C'est dans cette plaine immense, glaiseuse, dénudée, inculte, sous laquelle aujourd'hui coule la Bièvre en un canal souterrain, plus loin que les jardins des Gobelins, derrière les palissades de la rue Croulebarbe, que se déroula, le 25 mai 1827, un crime passionnel qui révolutionna Paris. Un pauvre diable, à peu près fou, Honoré Ulbach, y poignarda par jalousie une jeune fille, Aimée Millot.
Sur la vertu, quand on répand des larmes, l'air est frappé par ce lugubre cri. De la beauté, pleurons aussi les charmes, elle n'est plus la bergère d'Ivry.
Une histoire particulière, Aimée Millot, le crime qui inspira Victor Hugo, par Delphine Bauer et Nathalie Salle. Épisode 1, la bergère et l'assassin.
La bergère d'Ivry, c'est une jeune femme qui a 19 ans, elle s'appelait Aimée Millot.
Frédéric Chauveau, historien.
Elle est d'un milieu modeste et puis elle a une activité qui consiste à garder un troupeau de chèvres aux portes de Paris. Alors à l'époque, c'était une activité qui était tout à fait donc usuelle. Autour de Paris, il y a toute une série de lieux qui sont en fait des lieux destinés aux activités agricoles. Donc la jeune bergère gardait effectivement le troupeau, sa patronne. Une dizaine de chèvres suffisait à ce moment-là pour répondre aux besoins.
La petite Aimée était modeste et sage. Chacun l'aimait dans le quartier, où on la voyait, un grand chapeau de paille sur la tête et un livre à la main, gardait sous les ormes du boulevard d'Italie les chèvres de sa maîtresse, Madame de Trouville.
Quand on regarde la carte de Paris pour l'époque, les Gobelins, le quartier de Croulebarbe, on est au bord de la rivière, la Bièvre, qui est désormais enfouie.
Victoria Vano, juriste et historienne du droit.
On est vraiment proche des fortifications. On est encore loin de l'osmanisation, donc c'est vrai que plus on s'avance dans le centre, plus les ruelles sont étroites, mais plus on va vers l'extérieur, ce qui est le cas pour la localisation du crime, plus il y a d'espace. Puis, quand on lit quand même la manière dont les faits sont relatés, la manière dont finalement les témoins voyaient ce jeune couple-là, on avait l'impression quand même d'un espace plutôt tranquille et paisible, et pas ce coupe-gorge tiré tout droit des, on va dire, de Jeanne Sue ou de Victor Hugo.
Elle fréquentait un jeune homme, Honoré Ulbach, qui est plus âgé, qui a 26 ans, et un petit peu dans le même univers social, mental et culturel qu'elle. Et puis elle est assez sensible au début aux échanges qu'elle peut avoir avec lui. Le jeune homme, par contre, tombe fou, éperdument amoureux d'Aimée. Il lui fait un certain nombre de cadeaux. Alors c'était une façon à ce moment-là d'essayer d'aller un petit peu plus loin, de séduire, ou en tout cas de voir si une relation future était possible.
Deux oranges, une demi-bouteille de cassis et un joli fichu rose. Ils s'aimaient. Cette humble idylle fit jaser.
Et la patronne d'Aimée Millot lui dit: non, ce jeune homme n'est pas fréquentable. Il est comme d'autres garçons, c'est un mauvais garçon. Il n'a qu'une seule idée en tête, c'est que tu te pâmes devant lui, que tu t'abandonnes totalement. Et après, il ira donc convoler avec d'autres jeunes femmes. Donc je t'interdis de le fréquenter, sinon tu ne travailleras plus avec moi.
Expliquant que toute jeune fille qui reçoit des présents des hommes doit les payer de sa vertu.
Et cette mention à la vertu, elle est très intéressante parce qu'elle révèle vraiment l'obsession du 19e siècle pour la virginité.
Mathilde Leichley, historienne.
Du côté de l'Église, par exemple, il y a la mise en place du dogme de l'Immaculée Conception qui voudrait que Marie soit vierge, née d'une vierge, donc conçue sans péché, qui est promulguée en 1854. Et puis, il y a beaucoup de recherches médicales autour de l'hymen qui sont utilisées comme preuve par la médecine légale lors de certains procès.
Donc, elle, évidemment, donc très, très disciplinée, bien élevée, elle s'exécute, considérant que sa patronne, qui est une veuve avec une certaine expérience, a tout à fait raison, décide de mettre un terme à la relation qu'elle avait commencé à nouer avec ce jeune homme. Et sa patronne lui dit même qu'il faut restituer les cadeaux parce que si elle ne le fait pas, c'est déjà un engagement et il y aura une sorte d'escalade et qu'elle pourra accepter à ce moment-là d'autres propositions.
Dans un système où la domination masculine est très forte, les femmes sont toujours perdantes.
Christelle Tarot, historienne.
Parce que finalement, aucune solution n'est bien pour elle. Si elle refuse l'interaction, elle meurt. Si elle accepte l'interaction sans mariage, préalablement au mariage, et qu'elle tombe enceinte, il est possible qu'elle soit abandonnée. Les statistiques de l'époque montrent que c'est plus que probable, en fait. C'est très rare, en tout cas dans le premier 19e siècle, que les hommes qui obtiennent des femmes ce qu'ils veulent, finalement les épousent. Victor Hugo raconte ça d'ailleurs très très bien dans Les Misérables, parmi bien d'autres livres possibles de l'époque. Donc, être fille mère dans le premier 19e siècle, c'est une mort sociale. C'est une autre forme de mort, mais c'est une mort sociale. Et on voit aussi que pour les femmes pauvres de cette époque, il est quasiment impossible de survivre seule. Donc le mariage est une obligation économique plus que sociale, en fait. Donc si finalement elle accepte de l'épouser et qu'elle vit avec cet homme qui est de facto, qui a une âme de tortionnaire, alors ça sera une autre forme de mort qui sera probablement agrémentée, comme nous le savons aussi par les archives historiques, par exemple, par le devoir conjugal, qui est pour beaucoup de femmes de l'époque un viol, en fait. Donc, dans tous les cas, on observe que la situation ne permet pas, en fait, que les choses soient autrement qu'elles sont. Ce qui faisait dire, d'ailleurs, à une très grande féministe, Madeleine Pelletier, que la femme ne pourra jamais aimer vraiment tant qu'elle sera sujette à l'inégalité.
Le 25 mai, à 10h du matin, Ulbach, fou de colère et de jalousie, après avoir acheté rue Descartes, près de l'école polytechnique, chez un brocanteur, un couteau qui ne ployait pas, s'était caché derrière les arbres du boulevard pour y attendre la pauvre petite bergère. Elle arrive avec ses chèvres et repousse Ulbach qui, affolé de rage, la frappe de 5 coups de couteau, s'enfuit et va se terrer dans un ignoble garni de la rue du Chantre, près du Palais Royal. La police le recherchait vainement lorsqu'il vint de lui-même se livrer au commissaire. C'est moi qui ai fait l'assassin.
Dieu tout puissant, auteur de la nature, maître des cieux, de la terre et des rois, vois ici-bas l'homme ta créature, si criminel en méprisant tes lois. Un homme, hélas, ton adorable image, à tes bienfaits n'attachant plus de prix, avait conçu dans sa perfide rage de massacrer la bergère d'Ivry, de massacrer la bergère d'Ivry.
Journal des débats littéraires et politiques, 28 juillet 1827. Monsieur le Président lit l'interrogatoire écrit de l'accusé, d'où il résulte qu'il a acheté le couteau pour s'en servir contre Aimée Millot, si elle ne voulait pas quitter le jeune homme qui inspirait à Honoré Ulbach des sentiments de jalousie. N'avez-vous pas vu plusieurs fois la fille Millot avec un jeune homme, et n'avez-vous pas cru qu'elle aimait ce jeune homme ? Oui, monsieur. Vous avez déclaré vous-même au commissaire de police et au juge d'instruction que vous en étiez jaloux, et que vous aviez eu l'intention de vous venger de ce jeune homme-là. C'est possible, mais je ne me rappelle pas.
Christelle Tarot, dans les comptes rendus de la presse de l'époque, il est fait état aussi de la jalousie maladive d'Honoré Ulbach, qui aurait surpris Aimé Millot en train de discuter avec un autre jeune homme. Il s'avère que ce jeune homme était son cousin.
Oui, et d'ailleurs, rien de nouveau sous le soleil. En fait, on peut dire que l'affaire Marie Trintignant, c'est exactement la même chose, sauf que Bertrand Cantat n'a pas acheté un couteau, mais qu'il l'a fracassé avec ses poings. Mais au cœur du problème, il y a la jalousie maladive aussi. Et pour Marie Trintignant, on observe que ce qui met le feu aux poudres, si j'ose dire, c'est le fait qu'elle a reçu de son mari, elle n'est pas encore divorcée à ce moment-là, des SMS sur son portable. Et Bertrand Cantat juge ça absolument inadmissible. Donc elle a le droit de n'être en contact avec aucun autre homme que lui. Et donc on a exactement la même logique à ce moment-là, mais je dirais peut-être encore plus maximisée, parce qu'il faut se replacer dans le contexte historique de l'époque. Donc on est dans le premier tiers du 19e siècle. Le code civil napoléonien vient d'être promulgué. qui est, comme on le sait, un monument de misogynie légale.
Il y a un article du Code pénal de 1810, l'article 324, qui permet à l'époux de tuer l'épouse, et je vais citer le Code pénal, dans le cas d'adultère prévu par l'article 336, le meurtre commis par l'époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable. Et à partir du moment où Honoré-François Helbach a l'impression d'avoir des droits sur Aimé Millot, il a, du fait de cette atmosphère générale et en particulier de cette atmosphère légale, il a le sentiment d'avoir le droit de la tuer.
L'objet de sa coupable flamme, qu'il payait d'un trop juste mépris, le monstre affreux concerta dans son âme l'assassinat de la Vierge d'Ivry. L'assassinat de la Vierge d'Ivry.
Le médecin légiste dira que le poumon a été perforé à trois endroits et que l'arme blanche du crime est restée plantée dans son épaule très profondément. Et il a été assez difficile d'ailleurs de la retirer du corps de la jeune fille. Donc on a une scène de crime d'une rare violence, hein, d'une intensité. C'est comme si donc l'accusé avait mis toute sa rage, toute sa déception dans ce crime.
C'est un crime très violent. Il a utilisé un couteau, il lui a porté 5 coups. Caractéristiques des crimes passionnels de la fin du 19e siècle. Donc c'est un peu comme ça d'ailleurs que les criminologues le définiront, hein, cette violence, cet acharnement sur le corps de l'autre est caractéristique du crime passionnel. C'est la passion qui commande, le crime est motivé par cette montée du sang et on tue sans même regarder. Donc c'est plusieurs coups de couteau, ça va être on décharge complètement le revolver sur sa victime, on l'assène de mille et un de coups et c'est ça qui finalement aux yeux, on va dire, de la population qualifie le crime passionnel. Donc c'est la terminologie la plus proche qu'on pourrait coller à cette affaire-là. S'il fallait vraiment en trouver une. Parce qu'en tant que telle, l'affaire Millot, c'est une femme qui a été tuée par un homme.
Pour moi, c'est une évidence en fait que ce qui s'est passé au début du 19e siècle dans le cas d'Aimé Millot est clairement un féminicide, puisqu'on a bien compris qu'en fait qu'il s'agit d'un acte de possession. Aimé Millot est considéré par son féminicidaire comme sa propriété. Et donc, il agit en propriétaire. Et ce qui est quand même assez hallucinant dans cette affaire, c'est que ils ne sont pas officiellement fiancés. Il n'y a donc aucune contractualisation du lien, même de manière très lâche. Mais que le simple fait qu'il se soit intéressé à elle, qu'il lui ait fait quelques présents, qu'elle les ait acceptés, et qu'elle se soit rétractée et pris par lui comme une trahison insupportable et comme un déshonneur viril. Et c'est ce qui conduit au passage à l'acte. Et ce faisant, on peut considérer que la définition du féminicide est tout à fait valide pour parler bien sûr de cette affaire.
Ça fait aussi écho à de nombreux discours sur la jalousie. Dans ce rapport avec l'adultère, il y a par exemple un texte d'Alexandre Dumas-Fils de 1872 qui s'appelle « L'homme-femme », dans lequel il distingue différentes catégories de femmes. Il les classe en 3 ordres. Il y a les vestales qui sont en haut, c'est les femmes de temple, les vierges. Il y a les matrones qui sont au milieu, c'est les femmes de foyer, les épouses et toutes les mères. Et puis il y a les femmes qui sont en bas, les femmes de rue, les prostituées. Donc on voit déjà ce lien important de la virginité dans l'imaginaire, du classement des femmes. Et il imagine un dialogue fictif avec un fils qu'il n'a pas, dans lequel il lui dit « Et maintenant, si malgré tes précautions, tes renseignements, ta connaissance des hommes et des choses, ta vertu, ta patience et ta bonté, si tu as été trompé par des apparences et des duplicités, si tu as associé ta vie à une créature indigne de toi, ce n'est pas la femme, ce n'est même pas une femme, elle n'est pas dans la conception divine, elle est purement animale, tu l'as. » Donc, ce texte d'Alexandre Dumas-Fils, c'est un plaidoyer en faveur du divorce, mais il dit puisqu'il n'y a pas de divorce, puisque la loi ne permet pas la séparation de l'époux et de l'épouse, et que, donc, en cas d'adultère, le mari serait obligé d'élever des enfants qui ne sont pas de lui, il propose à son fils de tuer la femme qui l'aurait trompé.
Au même instant que tomba la victime, sous 4 coups de poignard inhumain, du haut des cieux, le maître magnanime de son tonnerre effraya l'assassin.
Ce qui est intéressant en revanche, c'est que la justice et ses desservants, elle regarde les violences contre les femmes comme des violences tout simplement, comme des atteintes à l'ordre public. Et à partir du moment où on qualifie ces violences comme des atteintes à l'ordre public, des atteintes au corps de l'autre, à ce moment-là, on est contre les violences faites aux femmes. On ne va pas distinguer finalement la qualité de la victime. Peu importe que ce soit un homme, que ce soit une femme, un enfant, un vieillard, il y a une atteinte au corps, il y a une atteinte à l'ordre public, donc on condamne, donc on est plutôt contre.
Journal des débats politiques et littéraires, 28 juillet 1827. De nombreux spectateurs, parmi lesquels des dames élégamment parées sont en majorité, ont rempli de bonne heure la salle d'audience. À 10h30, après le tirage au sort des jurés, Ulbach a été amené par des gendarmes sur la barre des accusés. Il est vêtu d'un habit et d'un pantalon bleu avec un gilet noir. Ses cheveux sont blonds, son teint est pâle, sa complexion maigre, sa figure est douce, son maintien calme. On lui donnerait à peine 18 ans. Il a déclaré être âgé de 20 ans et se nommer Honoré François Ulbach, garçon marchand de vin, rue Royale, au Marais, numéro 15. Monsieur Grandin, greffier d'audience, donne lecture de l'acte d'accusation dont nous avons fait connaître hier les principaux détails. Il en résulte que Honoré François Ulbach est accusé d'avoir, le 25 mai dernier, commis un homicide volontaire et avec préméditation sur la personne d'Aimé Millot, âgée de 19 ans, connue sous le nom de la bergère d'Ivry.
Au 19e siècle, il y a vraiment une fascination pour les criminels. C'est vraiment porté par l'essor de la presse et de la presse de faits divers notamment. Les affaires criminelles, elles sont présentées comme spectaculaires avec un champ lexical qui est emprunté au théâtre. Les Canards sanglants du 19e siècle parlent de drame ou de tragédie. Et l'entremêlement de l'amour et de la mort fait vendre et attire les foules.
C'est une affaire qui a été extrêmement médiatisée, puisque la Gazette des Tribunaux est le premier journal à véritablement inventer la chronique judiciaire, même si c'est un petit peu sommaire, c'est souvent les correspondants sont sur place, ils prennent en note quelques tirades qu'ils restituent, si je peux dire, dans les colonnes. Pour les procès, c'est la seule trace qui existe aujourd'hui pour les historiennes et les historiens. Il n'existe pas d'autre documentation. On peut, par exemple, trouver la trace d'un dossier d'instruction, sauf finalement dans la région parisienne, puisque le palais de justice a brûlé pendant la commune avec l'ensemble de ses archives. Et donc la seule véritable information authentique, si je peux dire, de l'époque, se trouve dans ces comptes rendus.
On a quand même le Constitutionnel d'un côté et le Journal des débats, qui sont quand même deux journaux conservateurs. L'un va reprendre les faits de la Gazette des Tribunaux, donc reprendra le nom de l'affaire Ulbach. Donc c'est le Constitutionnel. Puis le Journal des débats, lui, va évidemment miser sur... j'ai retrouvé l'affreux événement qui a répandu la consternation dans le quartier des Gobelins. Lit-on au moment des débats dans le Journal des débats en 1827. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que rétrospectivement, et même d'un point de vue médiatique, la presse relate les faits à partir du nom de la victime, alors que la justice, elle, n'évoque l'affaire qu'à partir du nom de l'auteur des crimes.
Le procès d'assises au XIXe siècle, c'est un grand moment. C'est un épisode où on peut se distraire et Flaubert raconte, notamment à plusieurs reprises, que quand il avait donc un moment libre, il se rendait dans les palais de justice, il poussait la porte pour assister à un procès, quelle que soit à ce moment-là l'affaire particulière qui était donc présentée. Alors, par rapport à l'affaire Honoré Ulbach, ce qu'on peut dire, c'est que le procès a été quand même très rapide. Hein. C'est une journée pratiquement. Aujourd'hui, ce serait étalé sur sans doute plusieurs semaines. Alors, à l'époque, dans une cour d'assises, vous avez un président, deux assesseurs, un procureur et des avocats. C'est un monde qui est entièrement masculin. Parmi les jurés qui étaient au nombre de 12 à cette époque-là, qui appartenaient quand même aux privilégiés de la fortune, donc évidemment, il y avait une certaine orientation, c'est-à-dire que leur compassion pour les plus miséreux, bon, connaissait un certain nombre de freins structurels, si j'ose utiliser cette expression-là.
Le Constitutionnel du 11 juillet 1827, reproduisant un article de la Gazette des Tribunaux. C'est vendredi 20 juillet. Que comparaîtra devant la cour d'assises le nommé Jean-François Ulbach, accusé de l'assassinat de la bergère d'Ivry. Voici les principaux faits qui résultent de l'acte d'accusation. Ulbach perdit sa mère à l'âge de 12 ans. Il passa quelque temps à l'hospice des orphelins, rue Saint-Antoine, en 1822, et fut plus tard condamné comme vagabond
à rester pendant 18 mois dans une maison de correction. Il était, au moment du crime, au service du sieur Horry, marchand de vin traiteur au Nouveau de Moulins. C'est là qu'il avait eu l'occasion de connaître une jeune fille d'environ 19 ans, qui était domestique chez la veuve de Trouville, rentière, demeurant avenue et commune d'Ivry, numéro 10. Cette fille, nommée Aimée Millot, venait plusieurs fois par semaine apporter des œufs chez le sieur Horry et gardait habituellement des chèvres sur le boulevard extérieur du côté de sa maison. Ulbach avait conçu pour elle une passion violente et ils avaient de fréquentes entrevues.
On a deux jeunes gens en fait. Elle est pure. Et d'ailleurs, cette pureté, la pureté de ses mœurs sera révélée par l'autopsie et c'est quelque chose qui sera repris dans les comptes rendus de la presse. On a comme ça ces deux figures qui s'opposent pour faire débat, pour créer, on va dire, la tension et puis aussi, peut-être aussi quelque part, recréer un petit peu l'opinion du procès, en fait, dans le prétoire. On va révéler et mettre en opposition la pureté de la victime et puis le côté vraiment peu recommandable, évidemment, de Honoré Ulbach. Hein. Et cette image aussi de la bergère.
Et dans le cas d'Aimée Millot, c'est intéressant de voir ce parallèle avec les vierges martyrs qui connaissent un culte important au XIXe siècle. La chef de file, en quelque sorte, des vierges martyrs, c'est Sainte Agnès, qui a rejeté les avances du fils du préfet de Rome, qui, pour se venger, la dénonce comme chrétienne et donc l'amène à la mort. Et puis, peut-être surtout, il y a Sainte Solange, qui est bergère, elle aussi, et qui connaît un culte particulièrement important au XIXe siècle, parce que c'est une sainte française, elle vient du Berry, et parce que les faits ont lieu en 878, et donc en 1878, il y a la célébration du millénaire de Sainte Solange. Donc Sainte Solange est une bergère et alors qu'elle garde ses troupeaux, le fils du seigneur de Bourges tente de la séduire avec des promesses de mariage, puis il la menace pour qu'elle consente à avoir un rapport sexuel avec lui. Elle refuse, il l'enlève sur son cheval, elle se débat, elle tombe à terre et il lui tranche la tête.
Et il va de soi que c'est évidemment cette image un peu angélique qui est mise en avant et on en a besoin de cette image angélique évidemment pour faire adhérer en tout cas l'opinion à la monstruosité du geste d'Honoré Ulbach. Ce qui est important, c'est que justement, on s'adresse à une population un peu plus éclairée à travers la presse, et le fait de mettre en avant cette pureté-là, c'est aussi créer l'opinion de dire que c'était une bonne victime, effectivement. On a fait attention à ses mœurs parce que c'était ça qui importait le plus.
Voilà, il y a vraiment cette idée de devenir mythe de la figure d'Aimée Millot qui disparaît en fait derrière cette construction de victime idéale vertueuse qui est faite par la réception de l'affaire. Et la deuxième facette de ce mythe, c'est le fait que en fait elle serait tentatrice et coupable. Et là, on va du côté du crime passionnel. Et par exemple, dans le journal Le Rappel, en 1891, il est dit « C'est un simple drame d'amour, ou plutôt un simple crime passionnel commis par une jeune brute. Si Aimée Millot avait voulu aimer François Ulbach, se délaisser de la fortune, se paria dès le jeune âge, serait peut-être devenu bon. » Donc là, la responsabilité, elle est complètement mise sur la victime. Et on trouve aussi cette responsabilité dans certaines pièces de théâtre qui sont écrites sur l'affaire dans les années 1860.
Journal du commerce, 28 juillet 1827. Monsieur de Broc, avocat général, soutient l'accusation. Maître Charles Duez, défenseur d'Ulbach, cherche à écarter surtout l'idée d'une préméditation de la part de l'accusé. En attribuant son crime à une espèce de monomanie de fureur amoureuse qui l'avait privé de sa raison.
Et son avocat, qui s'appelait Duez, a essayé d'introduire en fait la question de la folie. Il a rappelé par exemple que quand il était plus jeune, à 10 ou 12 ans, alors tout le monde n'est pas d'accord sur l'âge, enfin bref, peu importe, quand il était très jeune, il a perdu sa mère. Et à ce moment-là, il a été totalement déboussolé, à tel point qu'il a fallu l'interner dans un lieu qui doit normalement accueillir les aliénés. Mais pour la justice, à ce moment-là, bon, on prend en compte les faits, le reste peu importe, et donc il n'y a pas de difficulté à ce moment-là de l'exécuter et de l'envoyer donc au pied de la guillotine.
C'était un peu, on va dire, un verdict attendu. C'est un meurtre avec préméditation, et la préméditation est une circonstance aggravante. Et la peine qui est prévue pour l'assassinat, c'est la peine de mort. S'il avait commis son crime, on va dire, plutôt à la fin du XIXe siècle, à mon avis, il aurait été acquitté. Pourquoi ? Puisqu'à partir de 1832, le jury, avec la loi du 28 avril 1832, peut prononcer des circonstances atténuantes. Et le fait de prononcer des circonstances atténuantes transforme souvent, on va dire, la première accusation, la première incrimination, puisque souvent les jurés ne reconnaissaient pas forcément la préméditation, donc d'un assassinat on tombe d'un meurtre, et le meurtre c'est quoi ? Ce sont les travaux à perpétuité. Donc il n'aurait pas été condamné à mort, mais il aurait pu être condamné, voire acquitté. Et parce que malheureusement, les crimes passionnels, qui vont fleurir évidemment dans la presse, aboutissent souvent à l'acquittement. Et c'est vrai que ce verdict-là peut surprendre rétrospectivement, mais en tant que tel, si on se replace à l'époque, pas du tout, puisque la peine a été prononcée par les juges. Ils étaient 105 à l'époque, et les juges, même si depuis 1824 pouvaient prononcer des circonstances atténuantes, ont estimé que, eu égard, on va dire, l'intégrité de la victime, eu égard le profil de l'auteur, de la violence des coups portés, c'était la peine de mort.
Journal des débats politiques et littéraires, 11 septembre 1827. À 7 heures, un huissier, accompagné de gendarmes, s'est présenté pour conduire à la conciergerie Ulbach, à qui en ce moment on a mis la camisole de force. Le jeune homme, qui n'avait cesse de lui prodiguer des consolations, est monté avec lui dans la carriole. On assure que dans tout ce trajet, Ulbach a tenu la conduite la plus édifiante. Sa ferveur ne s'est pas démentie à son arrivée à la conciergerie, où l'aumônier de la prison lui a prodigué des secours spirituels. Vers 4 heures, Ulbach est monté avec le respectable ecclésiastique dans le chariot fatal. Ses jambes étaient affaiblies et ses traits étaient décomposés. Cependant, il avait refusé de prendre un mouchoir trempé de vinaigre que lui présentait l'exécuteur. Arrivé au pied de l'échafaud, il s'est mis à genoux, a fait ses dernières prières et est monté avec assez de fermeté. Quelques instants après, il n'était plus.
Les tyrans portant culotte, femme, notre jour est venu. Point de pitié, mettons en vote tous les torts du sexe barbu, tous les torts du sexe barbu. Voilà trop longtemps que ça dure, notre patience est à bout. Debout, Vésuvienne, debout, et lavons notre vieille injure. Liberté sur nos fronts, verse tes chauds rayons. Tremblez, tremblez, marée jaloux. Respect au cotillon.
C'était Aimé Millot, le crime qui inspira Victor Hugo. Épisode 1, La bergère et l'assassin. Merci à Christelle Tarot, Victoria Vano, Mathilde Leichlet et Frédéric Chauveau. L'affaire Aimé Millot a bouleversé le Paris du 19e siècle. Lors du second épisode, vous allez découvrir comment Victor Hugo s'en est emparé pour nourrir son combat contre la peine de mort. You don't own me. Don't say I can't go with other boys.